Français à l'équipe.
Croise courte gagnante.
Clément Tennis.
Superbe attaque de coup droit.
Eric Silvestro.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct de Roland-Garros à quelques jours de l'épilogue de cette deuxième levée du Grand Chelem de l'année. Carrément Tennis en direct de la Porte d'Auteuil pour évoquer bien sûr les demi-finales. Début aujourd'hui avec les demi-finales féminines entre Maria Sharapova, la Russe, et Lina, la Chinoise. Et puis l'autre demi-finale avec la belle surprise française, Marion Bartoli face à la tenante du titre, Francesca Schiavone. Et on va parler de ce phénomène Marion Bartoli dans la première partie de l'émission Carrément Tennis, savoir aussi si Maria Sharapova peut gagner les 4 levées du Grand Chelem. Roland Garros est le seul qui manque à son palmarès. Et puis le tournoi, messieurs, le gratin, bien sûr, et uniquement le gratin à l'affiche des demi-finales. Demain, les 4 premiers mondiaux, les 4 premières têtes de série sont au rendez-vous. Novak Djokovic, invaincu cette saison face à Roger Federer, l'homme qui détient le record du nombre de titres de Grand Chelem. Et puis Rafael Nadal, l'Espagnol, 5 fois vainqueur ici, tenant du titre, qui cherche à égaler le record de Björn Borg, qui a connu pas mal de soucis depuis le début de la quinzaine, mais qui arrive peut-être au mieux, au meilleur moment après sa victoire hier face à Robin Söderling. Nadal qui affrontera Andy Murray, qui lui a résisté à tout, au match à rallonge, à l'entorse à la cheville, le numéro 4 mondial, qui sera bien donc à l'affiche des demi-finales. Chez les hommes, il n'y a pas de place pour les autres.
Like this. RTL L'équipe, Carrément Tennis.
Allez, éparpillés un peu aux quatre coins du stade de Roland-Garros, dans deux cabines en tout cas, sur le court, Philippe Châtrier, on ne la présente plus, elle est de retour, elle était absente la semaine dernière, on est ravis de la retrouver. Carole Bouchard, bonjour.
Bonjour à tous.
Tout va bien ?
Tout va très bien.
À vos côtés, je crois qu'il y a une des plus grandes représentantes du tennis féminin français de ces dernières années, qui doit être là normalement. Émilie Loi, bonjour.
Je suis là, je suis bien
présente. Génial.
Bonjour.
Comment ça va, Émilie ?
Ça va super, merci.
Bon, vous êtes bien entourées, les filles, avec monsieur Clément Grèze à vos côtés.
On est très
qui va
bien
faire
entouré.
Le pan au milieu de ces deux jeunes filles.
C'est
salut
ça.
Clément.
Comment ça va ?
Bah, ça va bien.
Bah, c'est une bonne chose.
Et nous, on nous a interdit les filles avec Julien Varlet dans notre cabine. Nous sommes tous les deux tout seuls, on sait pas pourquoi. Ouais, ça va, mon Juju ?
Ça va bien, ça va
on
bien.
On va vous poser la question, Eric. Hein.
Mon Juju, je vais vous dire, mon Juju, il est assis sur le comptoir, là, les coudes sur la table, parce que la soirée d'hier a été un peu dure, mon cher Juju Varlet. Le trophée des légendes a débuté et Mansour Barami a fait la fête.
Et oui, j'ai pas beaucoup dormi, je l'avoue.
La voix va être éraillée au micro aujourd'hui quand
légèrement,
vous présentez les matchs sur le
central. Légèrement.
Bon, ça me fait plaisir d'être avec vous tous, bien sûr, pour ce Carrément Tennis Roland-Garros. On est à 4 jours de l'épilogue de ce Roland-Garros et on aura forcément un beau vainqueur chez les garçons, ça n'est à n'en pas douter. Et chez les filles, parce que oui, on va attaquer par les filles, Émilie Loi.
Oui, allez.
Merci Marion Bartoli.
Et merci Marion. Non, franchement, c'est top.
Merci Marion Bartoli. En demi-finale de Roland-Garros, elle affronte tout à l'heure en deuxième match Francesca Schiavone et l'italienne. Alors avant de rentrer dans les détails de cette rencontre, déjà un petit mot sur le parcours et le fait que Marion Bartoli soit là. Émilie, franchement, c'est vrai, c'est une énorme surprise.
C'est une énorme surprise, c'est clair. Vous savez très bien que je ne suis pas une fan de Marion Bartoli à la base. Mais franchement, cette semaine, depuis le début de la quinzaine, je suis limite tombée sous le charme. Je trouve que c'est une joueuse qui a vraiment changé. Déjà dans son attitude, cette fusion qu'il y a avec le public. Son jeu, franchement, elle arrive à développer un jeu. Son jeu habituel, son jeu dur qu'elle arrive à mettre en place sur terre. Donc ça, c'est fabuleux. Elle a une détermination, mais comme jamais j'ai vu. Et ce qui m'impressionne encore plus, c'est qu'en général, les Françaises ont un petit problème au niveau de tout ce qui est motivation, attitude. Et elle, je trouve qu'elle relève le niveau et c'est justifié qu'elle soit en demi. On peut se mettre à rêver, vraiment. Ça va être dur aujourd'hui, une nouvelle fois, mais j'y crois. Vraiment, j'y crois.
Carole Bouchard, toute proportion gardée, quand je vois Marion Bartoli, notamment depuis deux matchs, parce qu'au début, ça a été un petit peu chaotique, mais elle s'est accrochée et elle a gagné. Mais depuis deux matchs, j'ai l'impression de voir une jeune fille en mission à Roland-Garros, et toute proportion gardée encore une fois, j'ai l'impression de voir un peu un Yannick Noah en 83 qui avait un objectif, qui ne se souciait de rien, et Marion Bartoli, on a l'impression que ça y est, cette fois elle a décidé qu'elle pouvait gagner Roland et elle est en mission, quoi.
Mais c'est exactement ce qu'elle dit, qu'elle a fait une sorte d'opération commando sur ce Roland-Garros, ça fait deux mois qu'elle s'entraîne sur Terre, et comme l'a dit Émilie, moi c'est cette détermination sur chaque point qui est hallucinante. Elle a retourné le Linglen et le Central partout où elle est passée depuis le début de la quinzaine. Les gens sont à fond derrière elle parce que sur chaque point, ils sentent qu'elle veut gagner. Il n'y a pas de peur de l'enjeu, il n'y a pas de pression. Kuznetsova était verte de rage après sa défaite, mais je suis désolée, mentalement, il n'y avait pas photo. C'est peut-être plus au mental qu'elle est en train de toutes les battre que techniquement ou tactiquement, parce que si tactiquement elle joue très très bien, mais sur une surface qui normalement lui convient pas, elle est en train de toutes les manger. Et je trouve ça mes respects absolus. Skiavone, ça va être dur, peut-être parce qu'elle a peut-être le jeu qui convient le moins à Marion avec ses effets et tout, mais physiquement l'italienne, je sais pas où elle en est, mais une chose est sûre, c'est que Marion, elle ne lâchera rien.
Alors, ouais. Oui, Émilie.
Ouais, disons qu'aujourd'hui, c'est vrai ce que dit Carole, elle a le jeu qui va forcément l'embêter, mais c'est vraiment une opposition de style. Donc c'est clairement la joueuse qui va imposer son style de jeu et qui va le mettre en place, qui va s'imposer.
Alors avant de parler de Francesca Schiavone face à Marion Bartoli, juste un petit mot aussi avec Julien sur ce côté mental de Marion Bartoli. On sait, hein, le mental en tennis c'est 50 voire 60%, on en reparlera peut-être tout à l'heure avec Rafael Nadal notamment. C'est vrai que mentalement elle a l'air de ne plus douter de rien.
Oui, puis à la différence de certains matchs, comme l'a dit Émilie et Carole, je trouve qu'elle monte énormément le point, elle va chercher un peu le public. Alors on a vu qu'en début de quinzaine, le public était entre guillemets un peu réticent parce que voilà, elle est un peu en marge, mais
c'est un
voilà,
cas particulier.
Voilà, et au fur et à mesure, ben, les gens voient qu'elle s'arrache, elle fait le boulot, et puis je trouve qu'elle joue aussi très très bien, donc voilà, les gens jouent le jeu, elle aussi, donc c'est vraiment, vraiment très bien de l'avoir à ce niveau-là, et j'avoue, moi aussi, voilà, par rapport à la Fed Cup, je suis pas fan de ce qui se passe, mais d'un autre côté, pour l'avoir côtoyée longtemps ici à Roland-Garros, pour moi c'était, et je la voyais en salle de muscu, c'était la joueuse qui s'entraînait quasiment le plus chez les demoiselles, et voilà, elle mérite ce qu'elle a, et puis voilà, elle s'accroche. Il y a rien à dire, c'est vraiment chouette ce qui lui arrive.
Ouais, y a Clément Grail, si je peux me permettre, ouais, on a quand même des demi-finales avec chez les filles. L'exemple même que la preuve que le travail paye, quoi. Enfin, je sais pas si tout le monde est d'accord, mais il n'y a pas de pur, d'énorme talent, à part peut-être Maria Sharapova, mais qui a connu des périodes difficiles dans sa carrière et qui, du coup, a dû énormément travailler pour revenir à son meilleur niveau. Mais que ce soit Marion Bartoli, qui a ce jeu si atypique, ce fonctionnement en marge d'un système, voilà, on a quand même la preuve que c'est le travail qui paye. Francesca Schiavone, ouais, c'est exactement la même chose, c'est le même type de joueuse, quoi. C'est quelqu'un qui va venir travailler, résister, défendre, etc. Moi, j'aime bien ce qu'on voit dans le tableau féminin parce que justement, on a des filles qui lâchent jamais rien, qui sont toujours derrière la balle et qui sont des exemples pour tous ceux qui veulent un jour embrasser une carrière de sportif de haut niveau et qui se disent que finalement, ça doit être du travail, quoi.
Julien,
Clément, on peut pas dire que elles n'ont pas de talent, elles sont toutes.
Non, mais bien sûr.
Mais non, mais je comprends ce que veut dire Clément, c'est-à-dire que
non, après, moins c'est facilité
une Kim Clijsters qui est peut-être plus forte que toutes les autres qui arrive à Roland malheureusement sans préparation, mais au bout d'un moment, ça passe pas, quoi.
Ah ouais, non, mais après, voilà, comme Maria Sharapova, j'ai un énorme respect avec ce qu'elle a fait, les problèmes qu'elle a eu, elle revient à son meilleur niveau. Nali qui commence à venir et être de plus en plus régulière. Skiavone qui a passé énormément de temps sur le terrain et qui lâche pas un point. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on a peut-être le talent se voit peut-être un tout petit peu moins dans le jeu. Mais après, c'est vrai qu'elles ont du talent et c'est quatre demoiselles qui s'accrochent énormément et qui mentalement, je pense, sur cette quinzaine du moins, sont plus fortes que les autres.
Alors, vous avez beaucoup parlé de la communion nouvelle entre Marion Bartoli et le public de Roland-Garros.
Est-ce que c'est vraiment nouveau?
Le public français.
Non,
alors disons que ça, c'est devenu exponentiel, Carole, au fur et à mesure des tours. Les gens s'en fichent complètement de la Fed Cup. Ils sont à Roland-Garros, ils voient une Française qui se bat.
Ils ne la suivent pas, la Fed Cup, quoi.
Oui, déjà,
c'est possible.
Même pour ceux qui la suivent.
Roland-Garros, Marion Bartoli, moi ici, je l'ai toujours vue soutenue. Enfin, j'ai pas l'impression.
Non, mais je pense que c'est en train de grandir. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de.
Parce que les médias aussi, peut-être, arrêtent de casser du sucre sur le dos de
Marion. Oui, et puis non, mais sur le court, quand vous avez 10 000 spectateurs sur le Linglen et que vous voyez cette jeune fille s'arracher sur tous les points et tout ça, vous oubliez tout le reste. Vous la voyez sur le court, elle se met chiffon, elle se met minable et elle gagne. Et c'est ça qui compte. Je voudrais qu'on écoute rapidement Marion Bartoli après son match contre Svetlana Kuznetsova, gagné justement sur le Linglen en quart de finale. Évoquer ce plaisir et cette communion avec le public qui la porte et qui lui donne confiance.
Oui, absolument. En fait, là, maintenant, ça commence à retomber un peu et je me sens super fatiguée, pour être très honnête avec vous. Mais à la sortie du match, déjà l'interview sur le terrain, j'avais la chair de poule. C'était exceptionnel d'avoir la chance de vivre des moments pareils. C'est juste fabuleux. Mais je compte pas m'arrêter là. Il y a encore de grandes choses à vivre.
Ça représente quoi, une demi-finale à Roland-Garros?
Ça représente bien sûr énormément, parce que atteindre les derniers carrés ici, chez moi, à Paris, dans mon grand chelem, c'est bien sûr beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais je vous l'ai dit, mon objectif, c'est de réaliser mon rêve ici. que ça atteint la finale. Il y a encore un gros match à gagner, un gros combat. Et vraiment, je ne vais pas me satisfaire d'une demi-finale.
Ouais, Mario Bartoli au micro d'Isabelle Langer. Elle ne s'en satisfait pas, et ça, j'avais noté aussi à la quand elle a répondu sur le terrain à la sortie du cours, donc face à Svetlana Kuznetsova, elle a dit au public, avant son match contre Schiavone, en disant, mais de toute façon, avec un public comme ça, et vu ce qui se passe en ce moment, je ne peux pas perdre. En parlant du match contre Schiavone, hein. C'est-à-dire qu'elle n'imagine pas perdre, elle se voit gagner, elle se voit aller au bout. Quoi.
Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, pour avoir fait pas mal de lancements de matchs toute la quinzaine, et en étant au bord du court, j'ai fait aussi Sharapova, et autant, voilà, beaucoup de joueurs et joueuses sont très concentrés dès qu'ils rentrent sur le terrain, là, quand je l'ai appelé, ça m'a même fait bizarre, elle m'a regardé, elle m'a fait un sourire, elle m'a fait un clin d'œil, et elle paraissait assez décontracté, alors que bon, le Langlen était déjà plein, et j'ai trouvé ça.
Oh, il est tout rouge,
c'est pas faux, Émilie, peut-être que c'est moi, c'est pas forcément qu'elle était détendue, voilà, bon, c'est peut-être la raison.
Non, mais elle a rien à perdre, elle le joue exactement comme il faut, elle se met aucune pression, juste celle de vouloir gagner.
Alors, ouais, moi je suis pas certain, parce que il y a un petit bémol quand même dans ce que j'ai entendu de Marion Bartoli là, et enfin, je pense que c'est plus une question à poser à Émilie ou à Julien, c'est. Elle dit qu'elle veut atteindre son rêve et que son rêve, c'est la finale. Est-ce que justement, à une marche d'atteindre son rêve, parce que visiblement, son rêve, c'est pas de remporter Roland Garros. Hein. C'est un peu comme Raymond Domenech. Lui, il veut être là au 9 juillet. Il veut pas être là le 10, quoi. Mais elle veut être là à la finale. Est-ce que le fait justement d'être à une porte de la finale, ça va pas la tétaniser?
Bah, de toute façon, elle joue pour aller en finale. Ça, c'est clair. Elle va forcément être tendue au moment de finir le match. Ça, c'est sûr. Je vais faire un peu de psychologie de comptoir, mais de dire j'ai envie d'être en finale, elle aurait dû dire j'ai envie de gagner.
Oui.
J'ai envie de gagner le tournoi. Ah. Bon, après, on pinaille un petit peu sur les mots, mais c'est vrai que ça peut être un signe.
Parce qu'elle, elle dit quand elle était petite, elle rêvait de la finale. Donc oui. Elle dit pour moi, mon rêve, c'est la finale, parce que depuis que je suis petite, je rêve de la finale. Mais elle dit une fois que j'y serai,
mais
forcément,
du coup,
je voudrais gagner.
Mais du coup, elle sera peut-être détendue pendant la finale, mais super tendue pour la demi-finale. Parce que finalement,
c'est
son rêve, c'est
pas tendue.
C'est sûr
qu'elle va être tendue aujourd'hui. C'est...
Enfin, en même temps, si elle est super détendue pour la finale, ça veut dire qu'elle est passée. Donc, voilà. Même si elle est super tendue pour la demi-finale, c'est pas grave.
Ce qui est par contre bien, c'est que d'un autre côté, elle joue Schiavone et qui est pas une joueuse un peu comme Sharapova qui peut prendre tout de suite à la gorge et l'exploser par la puissance de frappe.
Alors
comme elle a pu faire hier avec Petkovic.
Ah bah, justement. Schiavone était beaucoup plus compliqué.
Francesca Schiavone, oui. C'est un cas à part, hein, on va le dire clairement. Quand vous regardez Lina, Sharapova, Bartoli dans l'ensemble, même si elles savent faire plein de choses, c'est quand même trois cogneuses.
C'est un talent aussi.
Hein. Avec Nila, oui, avec Nali qui peut-être peut varier un tout petit peu plus, mais encore pas sûr. Pas sûr. Oui, Lila.
Lila,
c'est des prénoms à la mode, vous savez. C'est déjà, Nali, on ne sait pas qu'est-ce qu'est son prénom, qu'est-ce qu'est son nom.
Normalement, c'est Lina, mais je crois qu'ils ont renoncé à nous faire comprendre.
Je savais, mais en fait, je le sais. En Chine, on met le nom avant le prénom. D'accord. Alors qu'en Europe, on met le prénom avant le nom. Bon, donc,
c'était très drôle, d'ailleurs.
C'est Lina.
C'est Clashtor, ça lui demande, je crois, l'Open d'Australie avant la remise. On la voit qui dit, mais je dis quoi? Je dis Lina.
Je dis ni ou je dis là ou je dis ni. Mais c'est drôle parce que justement, à la fin du match contre Victoria Azarenka, c'était Marc Mori qui donc célébrait la victoire et devait dire Victoria Azarenka. Et là, c'était Nali. C'est très bizarre. Enfin, ça collait pas, quoi.
Ah oui, ça va pas. Ça va pas.
Dans la rythmique, c'était pas trop.
Bon, ça, on verra pour la finale, éventuellement, messieurs, dames. Cette demi-finale, Faccia Francesca Schiavone, tenante du titre, l'italienne, qu'on avait annoncée sous pression, qui pensait qu'à ça,
Roland Garros. Qu'elle n'avait pas fait grand-chose avant.
Bah, à l'arrivée, elle est quand même en demi-finale. Alors, certes, dans la douleur, notamment sur les deux derniers matchs contre Jankovic, mais Jankovic qui, franchement, jouait pas mal du tout dans ce Roland Garros.
Elle s'est crispée sur la fin.
Et surtout contre Pavluchenkova, où elle est quand même menée 6-5, 4-2, 4-2, 5-2.
4-1 même.
6-5-4.
4-1 et balle de 5-1, mais à l'arrivée elle gagne 7-5, 7-5, ouais. Avec pareil cette espèce de rage qui l'habite. Émilie, elle ne veut pas le lâcher, quoi, son titre, et elle s'arrache jusqu'au bout. Francesca Schiavone,
elle est chez elle, elle est dans son jardin, ça c'est clair. J'avais pas misé mais un copec en début de quinzaine sur elle. De toute façon, je me suis trompée sur toute la ligne, tout le monde, donc je vais arrêter les pronostics. Et elle m'étonne de jour en jour. On a l'impression qu'elle est à la maison. Je pensais que ce qu'elle avait vécu l'année dernière, elle aurait eu du mal à le gérer, tellement d'émotions. Je me suis dit, tout ça va ressurgir, ça va pas être facile à gérer. Et elle le fait, mais alors d'une manière exceptionnelle. Elle surfe sur ce qu'elle a fait l'année dernière.
Un peu comme Söderling, en fait, qui avait atteint la finale il y a 2 ans. On avait dit, voilà, c'était un miracle qu'il atteigne la finale. L'année d'après, il va prendre un carton au niveau des points. Et mine de rien, l'an dernier, il refait finale. Donc Francesca Schiavone est un peu...
Sauf que Söderling avait bien joué à Roland, alors qu'il avait pas bien joué avant, tandis que là, Schiavone, elle joue pas bien, même pendant Roland, quoi. Elle profite d'un tableau qui est hyper avantageux.
Oh, elle joue pas bien, joue pas bien.
Oh, si, elle joue pas bien.
Fait, honnêtement, ça fait quand même pas rêver.
Jusqu'à 6-1, quasiment 5-1, ah, elle se bat,
s'arrache pas la jeu par Pavlyuchenkova.
Ça fait quand même pas rêver.
Elle boise un coup sur 3.
Elle est sympathique, je trouve, sur le terrain.
Ah oui, oui,
c'est vrai, jusqu'à 6-1-4-1, elle joue pas bien, mais après, elle joue bien.
De toute façon, pour Bartoli, c'est simple, il faut qu'elle fasse exactement ce qu'a presque réussi à faire Pavlyuchenkova, à savoir la prendre à la gorge et la bousculer d'entrée.
Sauf que Marion, elle a pas la puissance de Pavlyuchenkova. Alors moi, Pavlyuchenkova, je pense qu'elle est partie, elle, pour aller dans la fin de saison et la prochaine très très haut. Moi, elle m'a épatée.
Pas forcément, parce qu'elle bosse le physique quand même.
Ouais, ah ouais, mais elle a déjà grave bossé.
La défaite ici peut peut-être lui mettre un sacré coup au moral.
Je pense pas, parce que franchement, elle m'a pas. Quand elle revient de 5-1 à 5-5, tu vois que la nana, avec un peu plus d'expérience, elle va l'avoir, le mental.
Et quelques kilos en moins et un peu plus de physique.
De toute façon, les 4 dernières, ce sont les 4 joueuses qui ont le plus d'expérience.
Voilà.
Une Azarenka qui, pour moi, tennistiquement,
pouvait prétendre aller
en demi, voire des finales.
C'est décevante.
Et une nouvelle fois, elle ne passe pas le cap d'écart. Donc, c'est un problème mental. Alors que les autres ont soit gagné, ont soit déjà disputé une finale. Donc, elles savent très bien, avant d'entrer sur le terrain, qu'elles sont capables de gagner. Elles sont capables d'aller en demi, elles sont capables d'aller en finale. Et c'est vraiment ce qui a joué, ça a tout changé.
Écoutez ce que Marion Bartoli pense de ce match à venir sur Francesca Schiavone. Bien sûr, elle s'attend à quelque chose de difficile, on n'en était pas moins dans ses commentaires. Bartoli qui nous parle de Schiavone, c'était bien sûr après sa victoire sur Kuznetsova.
C'est une très grande championne, elle a déjà gagné ici l'année dernière en plus. Donc bien évidemment, c'est une adversaire qui a énormément de qualité mentale et qui est une très grosse combattante. Je crois que j'en ai aussi et ça sera de toute façon un combat à la fois tennistique bien sûr, mais aussi un combat mental. Et on verra qui est-ce qui sortira la plus forte. Il va falloir vraiment que je rentre à l'intérieur du terrain et que je prenne la balle le plus tôt possible. Ça sera la clé pour moi. Il faut que j'arrive à contrer son lift, c'est parce qu'elle imprime beaucoup de lift et que j'arrive quand même à rester proche de ma ligne. Mais de vivre des moments pareils, c'est juste fabuleux. Mais je compte pas m'arrêter là. Il y a encore de grandes choses à vivre. Et je vous l'ai dit, mon objectif, c'est de réaliser mon rêve ici. Donc, c'est atteindre la finale. Il y a encore un gros match à gagner, un gros combat. Et vraiment, je ne vais pas me satisfaire d'une demi-finale.
Pour suivre tout Roland-Garros, écoutez RTL L'Équipe.
Ah oui, elle la respecte, Francesca Schiavone, Marion Bartoli, mais elle a très très envie de la battre. Alors au niveau des face-à-face, c'est 4-1 pour Schiavone, messieurs, dames. Mais sur l'année dernière, c'est 1 partout avec Bartoli qui avait gagné à Dubaï en 3-7 et Schiavone qui avait gagné derrière à Roland-Garros. Sinon, je regarde, elles ne se sont jamais jouées
jamais sur terre.
Ouais, jamais sur terre. Bon, Schiavone mène 4-1. C'est sûr qu'elle sur le papier, elle a quand même...
Marion.
Ouais, elle a le jeu avec ses slices et ses gros lifts. Va falloir pour Marion prendre la balle très tôt. C'est elle qui nous l'a dit. Alors... Marion Bartoli en demi-finale de Roland-Garros, qui peut donc peut-être l'emporter. La dernière demi-finaliste de Roland-Garros, c'était Mary Pierce en 2005. La dernière jeune fille à avoir gagné Roland-Garros, c'est Mary Pierce en 2000. Mary Pierce qui était aussi, pas en marge autant que Marion, mais dans un cadre un peu différent. Bartoli qui est complètement en marge du système fédéral officiel. Elle rêve de finale. Est-ce que je vais
faut-il être en marge, c'est ça la question?
Non, ouais. Alors faut-il être en marge et deux, surtout, elle en rêve de la finale et de la victoire à Roland-Garros. Et je vais me faire volontairement provocateur. Est-ce qu'au niveau des instances dirigeantes du tennis français, ça serait pas un cauchemar un peu si Marion Bartoli venait
à gagner Roland-Garros? Ah non, mais moi j'y pense depuis quelques tours. Ils sont quand même.
Je pense qu'il faut pas tout mélanger. Moi, je suis complètement contre et je trouve ça dommage pour sa carrière qu'elle joue pas en Fed Cup. Après, je pense qu'il faut tout de même être derrière elle. Le fait qu'elle soit en marge, ok, c'est une chose. Elle a un projet qu'elle a mis en place, un système d'entraînement, etc., avec son père. Je pense, c'est même pas que je pense, c'est qu'il faut le respecter. Elle est en demi à ce jour et elle peut gagner Roland-Garros. Et ce que je trouve dommageable, c'est que les gens la soutiennent pas. Espère beaucoup, hein, espère qu'elle se plante,
disons-le.
Très clairement. Alors que c'est quasiment la seule joueuse, pas la seule joueuse française, je suis dure parce qu'il y a les jeunes et Caroline Garcia et tout qui ont de vrais projets et qui ça tient la route, mais quelque part en marge, ce sont des projets familiaux avec un entraîneur qui intervient. Je pense que tout est respectable. Sa manière de s'entraîner est respectable. Et je pense qu'il faut la soutenir. Il ne faut pas mélanger Fed Cup et Roland Garros.
Ça, vous avez raison, mais je me mets à la place des instances dirigeantes et il y a quand même beaucoup de monde dans la Fédération française de tennis.
Mais ouais, mais non, mais je suis pas d'accord.
Mais
la question, c'est même pas ça. Moi, la question que je me pose, c'est comment ils vont continuer à justifier le fait maintenant de ne pas faire un pas vers elle de compromis pour ces histoires de Fed Cup. On connaît le fond.
Mais est-ce qu'elle a envie, elle aussi?
Oui, non, mais voilà, mais maintenant qu'elle est en demi-finale de Roland Garros. Voilà. Mais c'est pas la... Maintenant qu'elle est en demi-finale de Roland, comment en fédération tu justifies de lui fermer la porte?
Mais ça, après, c'est pas qu'une question de demi-finale de Roland Garros.
Ah bah ouais, mais
moi, elle est top 10 depuis je sais pas quoi.
Mais moi, quand je dis ça, je pensais pas tellement à la Fed Cup, parce que la Fed Cup, en effet, tu peux toujours te cacher derrière le règlement collectif et à la limite, ça se tient. Mais je pense à tous ces formateurs, ces dirigeants, ces DTN qui multiplient les réunions, les machins, les trucs. Et à l'arrivée, que dalle. Et alors qu'une jeune fille toute seule dans son coin avec peu de moyens au départ.
Mais c'est notamment... pas la première.
Bah non, c'est pas la
première. Amélie Mauresmo.
Et même Marie Pierce.
Mais de toute façon, la fédération française, elle a tout intérêt à ce qu'il y ait des championnes qui brillent. Ça fera du bien au nombre de licenciés. Il y aura de plus en plus de licenciés, de plus en plus de gamins qui auront envie d'être, de jouer au tennis. Donc, à mon avis, la fédération, elle peut tout à fait se satisfaire de la performance de Marion Bartoli. Après, que les spécialistes, effectivement, aient un regard sur le parcours de Marion Bartoli, d'accord, mais je pense que le grand public, et c'est à mon avis ce sur quoi travaille la fédération, s'en fout globalement et verra juste la victoire d'une Française à Roland Garros, ce qui est pareil.
C'est Alexandra Fuset sur tous les matchs.
De savoir si elle a fait sa formation.
Ouais. C'est ça.
Oui, le public, oui, non, mais évidemment, le public s'en fiche complètement.
Mais on a vu Alexandra Fuset sur tous les matchs de Marion Bartoli, je pense que c'était la seule.
Bah, c'est déjà pas mal.
Et la programmation, d'ailleurs, c'est scandaleux. Ah. Elle a quand même joué en même temps Gaël Monfils sur le cours.
Ah, mais depuis le début de la quinzaine, la programmation.
Ça a été un peu bizarre.
Glissé au milieu de deux doubles, ça ressemble à rien. Personne n'a vu une balle. Voilà, après, les gens parlent, il faut faire de la promotion autour du tennis féminin. Tu mets pas une joueuse qui est en demi-finale.
C'est vrai que c'était en quart à l'époque, mais vous avez raison de le souligner. La programmation est un petit peu étrange.
Depuis le début de la quinzaine.
Mais c'était aussi le souci que.
Il y avait la fin de Murray Troïki aussi. Il y a le forfait de Follini qui pouvait pas jouer contre.
Ouais, mais pourquoi à la limite? Ok, il y a le forfait de Djokovic, mais moi j'en ai rien à foutre que Djokovic il passe par.
Non, mais c'est pas ça. C'est que Emily Com, en fait, donc ce jour-là, il y avait prévu deux quarts de finale masculin et deux quarts de finale féminin. Et c'est clair que s'il n'y avait pas eu le forfait de Fonini, on aurait eu Bartoli et Monfils, un match féminin, un match masculin sur le central, et on aurait eu Schiavone et Djokovic Fonini sur le Langlen. Le problème,
c'est au détriment de la joueuse.
Bah, parce que le problème, c'est qu'il y a aussi 10 000 personnes qui ont payé certains 90 euros leur place, et que si tu leur donnes que un seul match, Schiavone Pavluchenkova dans la journée, là tu te.
De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pour faire du pognon, parce que même s'ils mettent que le match de Bartoli, le mec et la nana qui payent leur place 50 ou 60 euros pour voir un match de simple.
Bah oui.
Déjà, c'est scandaleux.
Mais c'est pour ça qu'ils ont eu la chance, quelque part, que le match Murray-Troïki ne se termine pas. Et du coup, il y a quand même eu le dernier set de Murray-Troïki plus Bartoli. Alors qu'au départ, qu'un match.
Comment, si tu veux, la fédération, ils arrêtent pas de dire le tennis féminin, faut le relancer, etc., avec de grands discours. Et sous prétexte qu'il y a un WO, on la fout sur Suzanne Nagel.
Attends, et quand ils te mettent Djokovic Del Potro en quatrième à 19h le soir, tout ça pour que les gens restent au stade le plus loin possible pour aller acheter des glaces et des serviettes
et des balles.
Mais
c'est pas grave, ce sont des...
Oui, mais à l'arrivée, les mecs, ils ont joué à 9h30. Mais c'est Djokovic, le mec, il a pas perdu un match de l'année.
Tu sais qu'on s'est ridiculisé quand même, c'était le choc de la première
saison. Mais attends, t'as une joueuse, c'est quand même pas tous les ans qu'il y a une joueuse qui fait quart
d'heure. Non, mais après, moi, je vais vous dire un truc, parce que pour avoir assisté à une réunion au niveau de l'organisation et de la programmation des matchs, c'est un pur casse-tête de faire une programmation, parce que vous avez aussi le problème des télés de certains pays qui ont besoin d'avoir des joueuses retransmises, comme par exemple les chinoises, faut qu'elles jouent à certaines heures pour être en prime time chez eux. Donc c'est vraiment, sincèrement, c'est vraiment un casse-tête.
Le
problème, voilà, c'est que les priorités, c'est même plus les joueurs, quoi. C'est scandaleux.
Tu dis les télés, je suis d'accord, mais enfin bon, nous on n'a pas pu faire Bartoli. Si, en décalé.
C'est pas terrible, c'est vrai. On va finir sur le tennis féminin, la première partie de cette émission. Est-ce que vous voulez entendre Marie Pierce sur Marion Bartoli? Parce que c'est quand même la dernière vainqueur de Roland Garros. Marie Pierce qui est à Paris cette semaine. Elle est de très bonne humeur, Marie Pierce. Elle est toute joyeuse d'être là. Écoutez-la justement sur le parcours de.
Elle est toujours pas à la retraite?
Comment ça? Non, pas officiellement.
Ah, Clément, comment va la coiffure?
Laquelle?
La mienne?
Ça va?
Pourquoi vous pensez à Marie Pierce, Clément?
Non,
les cheveux? Il y a un rapport de cause à effet?
Moi j'avais envie.
Il doit y avoir.
Je sais pas. Bon, en tout cas, on l'écoute quand même. Marie Pierce, vainqueur ici en 2000, demi-finaliste en 2005, qui évoque le parcours et la demi-finale de Marion Bartoli.
Marion me fait penser à Céleste, avec les deux mains sur les deux côtés. Elle prend la balle tôt, elle est agressive. Mentalement, je trouve qu'elle est assez forte, elle se bat. Donc, c'est super. Donc, Et Monica, elle a eu des bons résultats ici à Roland-Garros. Donc, écoute, Marion, maintenant, en tant que Française, avec le public derrière elle, toutes les émotions qui vont avec, il faut juste les gérer, les bien gérer. Jusqu'à maintenant, ça se passe super bien. Et puis, bah, elle est en confiance, donc c'est super.
C'est super, Marie-Pierce.
Si Marie-Pierce nous avait pas éclairé, on n'aurait jamais deviné. Hein. Parce que c'était d'une qualité son
interview. Oh, vous êtes dur, c'est sympa de l'entendre, mais comme vous êtes dur, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise?
Bah, disons qu'elle dit les émotions, faut les gérer, c'est vrai qu'elle a raison.
Oui, mais bon, elle aurait peut-être pu sortir des choses un peu plus subtiles venant de Marie-Pierce.
Oh, mais une interview pas bien, au milieu hein. d'un
mais
dans
vous
un
êtes
couloir.
Dur, attends, vous êtes dur. Bon, un petit mot sur l'autre demi-finale quand même, avant la fin de la première partie. Nali face à Sharapova. Sharapova, certes, elle a gagné Rome, mais on pensait pas que sur Terre, sur un grand chelem, sur 15 jours, elle pourrait être là. Nali, elle confirme sa finale de l'Open d'Australie et sa montée en puissance. Sharapova, on rappelle que c'est le seul grand chelem qui lui manque. Ouais. Elle a gagné Wimbledon en 2004, elle a gagné l'US Open en 2006, elle a gagné l'Open d'Australie en 2008. Est-ce qu'elle peut gagner les 4? Est-ce que cette année, avec certaines désillusions, non
elle va perdre sur Nali, je pense.
Elle perd sur Nali
J'espère bien que non.
Je pense parce que déjà hier, si elle fait pas son très très bon début de partie, et Petkovic est un peu en dedans.
Attends, elle lui colle 0 et 3.
Je suis super bien pendant un peu. 0-2-0, il n'y a pas de match.
Et oui, mais parce que là, Petkovic, elle est pas dedans. Et quand ça commence à être un peu dans le dur, c'est plus la même
histoire. Pourquoi elle est pas dedans? Elle joue bien.
Oui, elle joue bien, mais Petkovic, premier quart et tout ça. Donc, moi, je pense que Nali va la battre.
Petkovic, de toute façon, vous ne m'écoutez pas, je le dis depuis le début de l'année. Petkovic est super joueuse, mais mentalement, c'est quand même.
Ça n'a rien à voir avec ça. Mais Sharapova, pendant un 7,5, elle est très injouable. Elle a toutes les lignes. En courant, ça part une vitesse de dingue. Elle ne peut rien.
La seule qui était en position de battre Sharapova dans ce tournoi pour l'instant, c'est Caroline Garcia, je vous y
vais. Radvanska aussi, hein. Elle a 4-1 dans le premier set, elle a 5-3 dans le deuxième.
Ouais, mais elle a pas mené un 7-0 par exemple. Donc ouais, déjà, quand tu mènes pas un 7-0,
ça se vaut.
Donc Sharapova,
Elle est en train de taper des balles là sur le court.
Moi,
central.
Je la trouve très très bien. Et puis Nali, quand elle est dans un jour un peu moyen, on sait
Et puis elle a l'expérience pour le coup. Elle a l'expérience.
Moi, j'aimerais bien la voir en finale, mais je pense que Nali va battre Maria.
Ah, j'espère pas.
Alors, elle a gagné tous ses grands chelems les années paires, 2004, 2006, 2008.
Alors, ça, c'est.
Elle a raté 2010.
Vas-y, sors le pipeau, Eric.
Elle a raté 2010, elle a un an de retard, mais bon.
Quand tu vois l'avant Roland Garros, Sharapova sur terre battue, au moins elle s'est arrachée à Rome, elle a été fantastique. Je préférais qu'une fille comme ça aille au bout que Nali, qui depuis Melbourne a absolument rien fait.
Ouais,
quoi.
Mais Nali, franchement, je trouve qu'elle monte aussi en puissance et son match contre Azarenka était quand même vraiment pas mal.
Ouais, mais son premier match pas mal, donc c'est vrai que c'est quand même la force des grands, c'est que quand ça arrive, la fin arrive, ils sortent le grand jeu. Et déjà, je la voyais pas passer sur Kvitova.
Elle s'en sort un peu par miracle parce qu'elle est quand même menée 3-0 au troisième et Kvitova, je pense, un tout petit peu mentalement friable aussi.
Elle passe. Et là, hier, elle bat Azarenka en jouant son premier bon match de la quinzaine. Donc, mais pour moi, tout est ouvert. Les quatre.
Début de ces demi-finales avec Nali Sharapova tout à l'heure à 14h, suivi sur le cours Philippe Châtrier également de Marion Bartoli face à Francesca Schiavone. Et on vous fait vivre, hein, bien sûr, en direct et en intégralité sur RTL Équipe ces demi-finales féminines. Juste après les infos, on parle du tableau masculin et du quatuor de rêve, les 4 premiers mondiaux en demi-finale.
RTL Équipe en direct de Roland-Garros, Eric Silvestro.
Et on se régale bien sûr avec Carole Bouchard de l'équipe.fr, avec Clément Grèze, avec Julien Varlet, notre consultant tennis et speaker officiel du stade de Roland-Garros sur le cours Suzanne Lenglen. Il faut le préciser,
star.
Oh non, mais c'est un triomphe à chaque fois qu'il prend le micro sur ce cours. C'est merveilleux. On remercie Émilie Loi qui est venue évoquer le tennis féminin avec nous dans la première partie. Elle est partie déjeuner, c'est normal, elle commente chez nos confrères.
Et puis elle est un peu enceinte à la fin surtout.
Et puis il y a bébé qui arrive bientôt, il faut qu'elle se repose et il faut qu'elle mange, c'est très important. Merci Émilie, coucou, bon courage pour cet après-midi. J'ai même plus envie de saluer Benoît Mélin.
Il est là ?
Qui est une star intégrale. On ne l'a pas vu de la quinzaine de Roland Garros.
Attends,
il vient même
mélange
plus...
pas les torchons et les serviettes. Hein.
Il vient même plus dire bonjour. Oh là là, il a un melon.
Si moi quand il vient me dire bonjour dans le bureau, c'est pour se foutre de moi.
Non, je dis ça parce que je sais qu'il nous écoute. Alors je le taquine un peu. Benoît, si tu es encore en vie.
Tu nous écoutes.
On veut même bien prendre un petit café avec toi parce que tu restes notre ami quand même. Il doit être tout fou parce que Federer est en demi-finale.
Surtout que ça n'a pas fait un bruit. Il s'est faufilé tranquillou, Roger, il fait pas un bruit.
Alors évoquons cette première demi-finale, Djokovic-Federer. En effet, Federer, qui fait
ce sera la première ou la deuxième? La deuxième après.
À mon avis, ce sera la deuxième.
Ouais, plutôt.
À mon avis, à mon avis, ce sera la deuxième.
Parce que
ça sera la seconde.
Plutôt,
De quoi?
Parce que les autres ont fini plus tard, mais Nadal a joué hier.
Non, mais d'accord, mais Djokovic,
non, mais je suis d'accord.
Après 5 jours de repos, il peut prendre une après-midi de plus.
Non, mais c'est pas. Oui, mais est-ce qu'il voudrait pas mettre Rafa plutôt en deuxième, du coup, pour qu'il y ait plus de temps?
Moi, je pense. Non, je pense.
Très honnêtement, Rafa a joué. Là, il a plus joué que des matchs en 3-7. Il y a un jour de repos. À mon avis, on verra, mais je pense que. Ils tiendront plus les spectateurs en haleine en mettant Federer Djokovic.
Oh, les deux,
ça
se vaut, hein, mon ami.
Oui, c'est du très bon niveau, les deux.
Et petite question, moi qui ne connais rien. Oui. Les places le jeudi coûtent moins cher que les places le vendredi sur le central.
Les prix augmentent au fur et à mesure des
Tous les jours, ça augmente.
Tours. Non, mais parce que là, on est en demi-finale.
Oui. Donc, mais je crois que les places femmes sont moins chères que les
Moins chères que les places hommes.
J'espère.
Parce que c'est 3 heures de tennis et après c'est 10 heures. Donc
ah oui, mais alors là, mon petit Clément, on va rentrer dans un débat.
Oui, bah, hey, le price money
voilà,
même.
Exactement, tu vois, c'est le price money.
Puis on peut avoir aussi à 3, 7, 1, 1 et 2. Et
le
puis,
price
voilà.
client, et, enfin le price spectateur devrait pas être le même.
Ouais, bah c'est comme ça en tout cas.
Mais non, mais je crois qu'il est moins cher. Il est moins cher pour les demi-femmes que pour les demi-hommes.
Alors, parlons un petit peu de cette première demi-finale, même si elle sera sans doute en deuxième dans la programmation. Federer, en effet, qui mine de rien, traverse le tournoi sans perdre un set. Qui est en demi-finale, qui a joué tranquillement tous les deux jours ces deux petites heures.
Ah, c'est pas Wawrinka et mon fils qui allaient le faire transpirer.
Ça, c'est le problème. Mais, les points positifs, c'est qu'il arrive en pleine possession physique de ses moyens.
Il joue bien.
En confiance parce qu'il joue bien.
Bof.
Et il joue mieux qu'il y a quelques semaines.
Sans être fatigué. Ouais. Maintenant, les deux bémols, on va détailler, c'est en face Djokovic, qui est juste intouchable, on va en reparler.
Enfin, qui était intouchable avant de prendre 5 jours de vacances.
Ouais, mais
il est bien dedans, quoi.
Et surtout, Federer contre mon fils, certes, il a gagné en 3-7, mais moi j'ai vu quand même un Federer faire 50 fautes directes.
Ouais.
Alors, il y avait du vent, mon fils jouait pas bien.
Quand il a de la marge, c'est le genre de match où il se met sur le pilotage automatique, gardant un certain niveau, il va se faire ses 3-7 tranquilles et il va pas aller pousser. Donc ça, malheureusement, il le fait depuis X temps. Ça lui joue parfois des tours, mais là, il a eu raison, il s'est économisé. Moi, quand je lis le lendemain que la première tactique de Gaël Monfils, c'était d'aller castagner le coup droit de Roger Federer, mais je t'explique même pas le bon que j'ai fait en lisant ça. Me dis, là, ok, on arrête tout, jamais il va y arriver.
Alors, Julien Varley, est-ce que c'est l'année où personne ne parle de Roger Federer parce que Nadal est revenu? Parce que Djokovic est invincible, et est-ce que c'est cette année que Federer va nous faire les plus grosses surprises?
Il est bien en embuscade, on se focalise sur Rafa qui est dans le dur, Djoko qui perd pas, donc voilà, pour moi il est en embuscade, mais j'ai pas été vraiment convaincu par son niveau de jeu contre Gaël, et j'ai trouvé surtout que tactiquement il avait joué Gaël, entre guillemets, pour le faire briller.
C'est ça.
Comme il peut jouer de temps en temps contre Djoko ou contre Rafael Nadal, moi ce point je le vois vraiment quand il joue avec son revers et qu'il veut jouer en cadence, recouvrir, il peut commettre des erreurs. Alors qu'avec ce fameux slice, quand il vient vers l'avant, mettre la pression,
là,
les amortis, c'est là pour moi où il est le meilleur. Je trouve que tactiquement, il commençait à faire briller Gaël. Donc moi il m'a pas forcément encore convaincu, comme dit Carole, il est tranquille,
Mais tu sais ce qui va le surmotiver?
Il prendra pas un set à Djoko.
Tu sais ce qui va le surmotiver, ce qui peut le sauver, c'est son ego, parce qu'il a l'occasion en or de pourrir la quinzaine de Djokovic, de l'empêcher d'être numéro 1 mondial, de l'empêcher d'égaler McEnroe, et ça rien qu'en conférence de presse, on a senti que ça lui fera un plaisir de dingue.
Je pense qu'on va demain voir un autre visage de Federer qu'on a pu voir tout au long de la quinzaine.
Et t'as
complètement raison. Parce que voilà, il veut péter la saison de Djokovic, tout simplement.
Ouais. Alors, après, autre chose intéressante quand même chez Federer depuis le début de la quinzaine, moi je trouve, c'est même si tactiquement c'est vrai, contre mon fils c'était moyen, j'ai quand même vu un Federer agressif jouer dans sa filière son tennis offensif. On l'avait déjà vu faire ça à Madrid, même contre Rafael Nadal, et là je trouve qu'il s'y est tenu depuis.
Tu l'as trouvé offensif à Madrid, toi?
Contre Nadal notamment.
Ouais.
Ah si, quand même. Attends, il a pas joué Nadal comme il le jouait d'habitude.
Ah non, mais tu te souviens du match de Rafa?
Non mais Rafa, d'accord, je dis pas, non mais Rafa c'est à part
lui. Mais quand
lui,
il n'est pas bousculé, il est bon.
Ouais, mais d'abord, l'apport technique qu'il a apporté dans ce match, Federer, c'est ce que je vois faire ici depuis le début de la quinzaine à Roland, c'est quand même un joueur qui essaye de jouer dans sa filière en 3-4 coups de raquette. Et s'il ne joue pas comme ça contre Djoko, éventuellement, même si par miracle il passe en finale contre Murray ou Nadal, de toute façon il s'en sortira pas.
Et c'est ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi Gaël s'est obstiné à vouloir le jouer sur une filière courte.
Gaël.
Oui, non, mais alors que tout le monde sait que c'est là que si tu le bouscules pas, si tu l'emmènes pas sur plus de 6 frappes, tu peux te prendre 3-7 mais plié. Et là il est bon parce que justement tous les mecs qui l'a joué l'ont joué dans sa meilleure filière, ce qui est pour moi une énigme absolue.
Des deux derniers,
donc là on va voir le vrai test. Est-ce que Djokovic, avec son plan de jeu, va remontrer les limites de Federer ou pas.
Alors j'ai entendu Clément Grèze prononcer tout à l'heure entre deux phrases de Julien Barlet
son
et Carole Bouchard, son verdict que Djokovic donc ne laissera pas un set à Federer. Mais c'est oui. Bien ça, j'ai bien entendu.
Mais non, mais je suis d'accord parce que effectivement on dit qu'il traverse un petit peu comme un fantôme pour l'instant ce tournoi Roger Federer. C'est vrai, on n'en parle pas, mais d'un autre côté, est-ce qu'il y a vraiment des raisons d'en parler? Oui, il y a des raisons d'en parler parce que son histoire, son palmarès, son talent, etc. Mais tennistiquement, qu'est-ce qu'il a montré depuis le début du tournoi? Pas grand-chose. Je crois que le bilan de tout ce que vous venez de dire, et je vais rien inventer, c'est qu'effectivement il n'a joué que des joueurs qui l'ont joué sur sa filière. On sait que ce sera pas le cas contre Djokovic. On sait que ça peut le faire redevenir à son niveau qui était celui d'avant Roland Garros et qui était tout sauf rassurant. Donc globalement, quand on voit le Djoko qui est le Djoko depuis le début du tournoi, le Djoko qui a mis trois piles à Richard Gasquet, le Djoko qui s'est pas fait peur depuis le début de ce tournoi, même si c'est vrai qu'il a eu plutôt un tableau facilité par la présence ou l'absence, ça dépend comment on voit les choses, de Fonini en quart de finale, je vois très clairement pas comment Roger Federer peut inquiéter Novak Djokovic. En plus, la quinzaine, elle est marquée par une donnée météo, c'est le vent. Il y en a encore aujourd'hui, il y en aura pour les demi-finales dames et il y en aura probablement demain également. On sait que Federer, il aime pas ça, même s'il s'est débrouillé pour faire avec contre des joueurs qui, visiblement, aimaient encore moins ça que lui. Donc, non, honnêtement, je vois pas quelles sont les raisons d'espérer pour Roger Federer, sauf s'il a une illumination et qu'il se met à travailler sur une filière nouvelle.
Alors, et que Djoko se crispe.
Bonne nouvelle pour lui, avant, c'est peut-être s'il arrive à passer ce cap des demi au niveau météo, puisque vous évoquez la météo, on annonce des températures assez fraîches et de la pluie, sans doute pour ce week-end.
Terrain alourdi, je vois pas trop comment ça arrangerait
non,
notre ami
alors,
ça face à Nadal.
Ben, ça l'arrange pas forcément contre Nadal ou Murray, mais un petit peu quand même, parce que Nadal préfère aussi finalement quand ça va un peu plus vite et que c'est sec, parce que ça rebondit beaucoup plus. Donc souvenez-vous que quand Federer a vraiment dominé Nadal sur terre, c'était Hambourg, et Hambourg c'est un bourbier.
Non, la bonne nouvelle pour Roger Federer, c'est peut-être effectivement, et c'est Carole qui m'a soufflé l'idée, la crispation de Novak Djokovic. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement il peut écrire
mais
l'histoire.
Vous l'avez vu crisper où?
Non,
on dit ça
demande...
depuis une semaine et le mec, j'ai jamais vu un mec
Eric,
aussi détendu.
Eric, Eric, c'est la première
il
fois.
Il a un match de son rêve.
Il a un match non seulement d'un rêve, mais surtout il a un match d'un premier record. Novak Djokovic vit dans l'ombre aujourd'hui de Rafael Nadal et de Roger Federer qui sont deux joueurs qui écrivent l'histoire du tennis. Dans les livres des records du tennis aujourd'hui, il y a quasiment plus de deux noms, c'est Rafael Nadal et Roger Federer. Novak Djokovic, il a la possibilité pour la première fois de sa carrière d'écrire à son tour une ligne, de faire une partie de l'histoire du tennis. Ouais. Non mais voilà, il a gagné, il est numéro 2 mondial, etc. Il sera peut-être même numéro 1, il le sera, etc. Voilà. Mais il y en a eu plein. Là, c'est un record exceptionnel qu'il est en passe d'écrire.
Oui.
Et voilà, et il peut avoir conscience de ça et il peut peut-être un peu trembler.
Mais il te le dit, lui, quand tu lui demandes c'est quoi ton rêve, il dit depuis que je suis petit, le rêve de ma vie de joueur, c'est d'être numéro 1 mondial. Il a un mental de dingue et je me dis qu'à un moment donné, ça peut le rattraper.
Sur un match, il va jouer deux choses, c'est le record de McEnroe et la place de numéro 1.
C'est beaucoup, hein.
On rappelle qu'il lui, il lui faut atteindre la finale pour être numéro 1 mondial, même si Rafael Nadal gagne le tournoi. Donc c'est vrai que sur un seul match, Julien, il joue à la fois le record de McEnroe, à la fois une première finale à Roland et à la fois la place de numéro 1.
Et il le joue contre Federer.
Après, quand il est chaud bouillant, il est tellement fort que là, au contraire, ça va l'exciter encore un peu plus. Peut-être qu'au moment de conclure, s'il est devant, ça risque d'être peut-être dur. Mais ces ambiances-là, moi, je trouve que voilà, quand il doit se transcender, on l'a pu le voir à la Coupe Davis, il ne s'est pas raté, le petit père. Donc,
parce que regardez, on prend sa quinzaine. On prend sa quinzaine.
Bon, il joue Del Potro, c'était chaud.
Il joue un premier match tranquille. Un deuxième, il profite de l'abandon de Ionescu, donc paf, repos. Derrière, il y a ce match contre Del Potro. C'était chaud, attends, Carole, c'était pas chaud. Il a perdu un set. On a cru que ça serait chaud parce qu'il faisait nuit à moitié, qu'il y voyait rien avec ses lentilles, qu'ils avaient traîné toute la journée, donc ça a équilibré un peu la donne.
Derrière, il met 3 et 2.
Derrière, il lui met 3 et 2.
Quand il est revenu le lendemain, il y a 2-2, 15-40, et jusque-là, il était tendu.
Attends, il lui met 3 et 2, il n'y a pas match. Et en sortant du cours la veille au soir, il signe des autographes et tout, alors qu'il est 9h30.
Il était quand même tendu. Bon. Et il s'est relibéré parce qu'il a dépassé cette tension-là. On ne sait jamais, à un moment donné, peut-être que la tension va le garder.
Derrière, il met 3-7 à Gasquet.
Qui pensait que Gasquet allait battre Djokovic.
Personne, mais qui n'a rien pu faire. Mais il a quand même géré le truc parfaitement, Djokovic. Il fait l'imbécile au micro de Pioline, il se met le public dans la poche. Derrière, il va jouer pendant ses 5 jours de repos à droite et à gauche. Il est allé à Cannes avant le tournoi. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression d'un mec qui est totalement détendu, quoi. C'est limite, pour il a fait un aller-retour oui. à Monte Carlo pour aller à la Spiaggia manger une focaccia.
Mais c'est sa personnalité aussi, hein. C'est pas le genre, même je pense que s'il est tendu par un enjeu, entre les deux matchs, il va pas se prendre la tête pendant des heures. C'est pas comme ça qu'il est maintenant.
Cela dit, mine de rien, moi qui traîne quand même pas mal au niveau du Players Lounge, du resto, je ne l'ai pas vu. Hein.
Il évite, hein, j'ai l'impression qu'il évite.
Sur les 5 jours, j'ai pas vu, mais ne serait-ce que quelqu'un de son staff ou quoi que ce soit.
Alors, personne. On a beaucoup parlé.
Si ça se trouve, il a pris un jet, il est redescendu à Monte Carlo.
Mais c'est ce que je t'ai dit, t'as la Spiaggia manger une focaccia. Et on parlait de la fatigue ou de la fraîcheur. Alors là, c'est quand même pratiquement 5 jours sans jouer, c'est beaucoup. Alors il va arriver frais comme un gardon, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut perdre le rythme, Julien? Bon, il s'est entraîné, forcément.
Ça me rappelle l'année.
C'était arrivé à Federer. Ouais, Federer voilà.
À Wim,
exactement.
Et où voilà, il y avait. Mais à la rigueur, peut-être le rythme des matchs. Mais bon, là, il se dit qu'il est tellement dans une psychologie où voilà, il est en demi et tout ça. Je suis pas certain que ça le gêne.
En tout cas,
comme dit Nadal, le gars, il a gagné plus de 40 matchs depuis le début de la saison. Vous croyez vraiment qu'il va perdre son timing? Mais bon, qui sait?
Alors, en termes de temps passé sur le court, forcément, Djokovic, celui qui en a passé le moins, puisqu'il a moins joué. 7h43, 9h13 pour Federer, qui est pas non plus énorme, mais il a gagné que des matchs en 3-7. Ouais. Donc, le vainqueur de cette première demi-finale sera forcément plus frais que celui de la deuxième, puisque Nadal a passé 14 heures sur les courts.
Incroyable.
Et Murray, 13 heures. Parce que Murray a passé du temps aussi.
Donc,
le vainqueur de cette demi-finale aura sans doute l'atout fraîcheur pour lui en sa faveur.
Ça dépend, hein, s'ils se mettent 5 heures dans la vue, nos amis. Vu leur style de jeu, ça m'étonnerait. Mais...
Alors, moi, j'ai entendu. Donc, Clément, j'ai compris Djokovic en 3-7. Carole,
Djoko en 4. Ah, bah, allez. Mais moi, tu sais bien que je veux ma finale Djokovic-Nadal. Mais je me méfie du Suisse.
Julien,
il veut tellement lui prendre la ligue.
Même si je le sens chaud bouillant, je mets une piécette sur Roger.
Sur Roger.
Ouais.
Et vous savez, on parle beaucoup de Djokovic qui joue très gros, McEnroe, le record, la finale à la place du numéro 1, mais je pense que Federer joue très très gros aussi. Une nouvelle fois.
Bah, c'est peut-être une de ses dernières finales de Grand Chelem.
S'il se prend 3-7 à Roland contre Djokovic en demi, ça veut dire que vraiment, il ne peut plus, quoi. Et de moins en moins, quoi.
Roland Garros, pour lui, quand il perd, est-ce que ça a été souvent une déception? S'il perd à Wim, oui. S'il perd à Roland en demi, je ne suis pas convaincu que ça le marque.
Et le pronostic d'Eric Silvestro, là.
Ouais, d'ailleurs.
Ah, moi je vois Djoko.
En combien?
Sans problème.
En 3?
Ouais, je vais dire en 4 parce que j'ai envie de voir un peu de spectacle, mais je vois Djoko en tout cas sans sourciller, quoi.
Et cela dit,
vous connaissez ma légère tendance pour Rafael Nadal. Je serais pas malheureux que s'il fait derrière gagner.
Ah, mais tu m'étonnes.
Ce qui voudrait pas dire que Nadal gagnerait derrière, mais je pense qu'il rentrerait sur le court un peu plus
La seule chance confiant que s'il jouait contre Djoko.
Cela dit, il reste 10 minutes, on n'a pas dit un mot sur notre ami british. Hein,
ah, moi j'adore. Et moi je suis en train de
sur Nadal Murray.
Bien fan.
Bah, on n'a pas dit un mot de Murray.
Bah, on y va.
Ah, bon, alors
on a encore plus d'un quart d'heure, qu'est-ce que vous vous stressez?
Mais non, on arrête à midi.
La Varley, il
alors,
te laissera rien passer.
Il est même pas midi 20, mettez votre montre à l'heure, mon cher Julien Varley.
Ah, mais moi, Murray, je trouve que c'est incroyable ce qu'il vit là. Parce que je sais pas si vous avez vu ce matin, il bloque pour la BBC. Donc on a eu la cheville flinguée, on a eu Je me perds dans le métro. Et ce matin, il nous dit qu'il s'est pété une dent avant son match contre Tchela. Et que du coup, après son quart, il a filé chez le dentiste. Mais c'est les aventures de Oui.
On va l'appeler la guigne maintenant.
Il est énorme et il gagne quand même.
La cheville, on va arrêter deux secondes. D'ailleurs, Nadal, ça l'a beaucoup agacé, la question
qu'il
a en conférence de presse. Il a en effet bloqué la cheville, il s'est tordu la cheville dans son match contre Berrère. Il s'est fait très peur, il s'est fait strapper, il a fini, il avait un peu mal.
Il s'est pas joué avec
il a eu un peu de retenue, un peu d'appréhension lors du match suivant contre Troïki dans les deux premiers sets. Et après, il est même plus strappé.
Mais non, il court comment?
Il est même plus strappé.
Je dis pas qu'il est blessé.
Mais il a rien du tout.
Mais je te dis pas qu'il est blessé, je te dis qu'il vit quand même des trucs. C'est la guigne, c'est oui à la plage. Il me fait mourir de rire.
Et mine de rien, ça nous enrhume.
Non, mais mine de rien, à force de se focaliser sur des trucs hors tournoi, et ben une fois sur le court, il oublie qu'il cogite en grand chelem.
Cela dit, là, il a quand même bien géré contre Tchela.
Ouais, parce qu'il était pas bien.
Non, mais ok, alors maintenant.
Non, géré dans l'ensemble du match.
Maintenant, je pense qu'en effet, il va énormément élever son niveau de jeu contre Rafael Nadal, comme on l'a pu le voir à Monte Carlo. Mais je vous rappelle quand même le parcours de Murray pour arriver en demi-finale à Roland. Eric Prodon, Simone Bolelli, Michael Berrer, ok, un peu Victor Troïki. Et Juan Ignacio Chela, qui est plus près de la retraite.
Un peu, il est quand même à deux points de la défaite.
Il est né de cet arrière contre Troïki.
Mais il va quand même en demi de Roland en jouant Prodon, Bolelli, Berrer, Troïki, Chela, quoi. Excuse-moi, c'est quand même un tableau.
Il a un tableau en or, mais après, faut en profiter.
Mais il le fait, voilà.
Donc, mais qui sait, s'il nous refait le match qu'il avait fait pendant un set à Monte Carlo, est-ce qu'il peut en tenir 3? Je pense pas, mais S'il est bon, il peut quand même aller titiller
l'enfer. Alors, est-ce que ça dépendra beaucoup de Murray, sûrement, mais oui, aussi pas mal de Rafael Nadal.
Oh, mais là, il est bien parti. Hein. Il s'est remis dans le sens de la marche, garçon.
Hier, il a rassuré pas mal de monde. Alors, faut pas non plus maintenant dire c'est bon, on a complètement retrouvé Rafael Nadal. Non, mais enfin, hier, il a quand même fait, Julien, un vrai bon match contre Söderling. Victoire en 3-7, 6-4, 6-1, 7-6. Söderling, par contre, il faut tout de suite le préciser.
Il est passé à côté.
Hein. Il n'a pas fait un bon match, mais Clément Graize évoquait le vent. Söderling n'est pas un joueur non plus qui aime le vent. Pourquoi ? Parce que d'abord, il a un lancer de balle très très haut au service. Ensuite, il frappe très tendu. Il y a peu de lift. Ouais, mais bon.
Il n'est pas en confiance, surtout. Hein. Söderling, depuis Indian Wells, il n'a rien fait.
Et puis surtout, il a craqué.
Il le paye à force.
Hein. Mais surtout, il a perdu la bataille face à Rafael Nadal. C'est-à-dire qu'il y avait forcément une bataille psychologique. Robin Söderling, et Eric l'a suffisamment répété en commentant cette rencontre, c'est qu'il pouvait devenir le seul joueur à battre Rafael Nadal. Enfin, l'espèce d'ennemi intime de Rafael Nadal. En plus, ils ne s'apprécient pas beaucoup, les deux. Et Rafael Nadal, il était prenable. Donc, il était quasi favori de cette rencontre, Robin Söderling.
Bah,
il était quasi favori de cette rencontre, Robin Söderling.
Avant le match, oui.
Avant le match.
Je pense que c'est ça qui l'a grippé, effectivement. C'est quand il a vu dès les premiers jours que l'autre, il jouait le feu, il s'est dit, oh, punaise,
c'est pas bon.
Alors après, est-ce
que
la presse internationale ne s'est pas, alors un peu à juste titre, mais peut-être pas complètement, emballée sur Rafael Nadal?
Non.
C'est lui qui le dit.
Non, qui nous a fait un gros coup de blues il y a trois jours en disant qu'il avait l'impression d'être sur le circuit depuis 100 ans, qu'il avait besoin d'aller pêcher.
Ça, c'était de l'entubage.
Non, je pense que...
Ah non,
mais c'est réel, Carole. On sent bien qu'il n'est pas serein.
Regarde-le depuis le début de la saison, il a été au taquet jusqu'à ce qu'il joue ses finales contre Djoko. Il n'y a pas un match avant ces finales-là où tu le sens cramé dans la tête. Non. Mais maintenant qu'il est pris un coup derrière...
Là, tu l'as senti cramé dans la tête quand même.
Oui, parce qu'il s'est pris... Bah oui, parce qu'au début de Roland-Garros, il a encore Rome dans la tronche. Rome où il s'est fait massacrer par le Serbe et il l'a dans la tête.
Oui, mais c'est humain, ça.
Eh bah oui, mais c'est pas l'usure. C'est pas l'usure d'être là depuis 10 ans et d'être numéro 1. C'est que là, il se trouve face à un problème et il faut que je tente de l'évacuer.
Oui, mais le problème, il arrive éventuellement qu'en finale. Donc,
ouais, mais tu fais pas 6 finales et tu gagnes pas 2 titres si t'es cramé dans la tête. Ça n'existe pas.
Oui, bah, en tout cas, pour un mec cramé dans la tête, il s'est quand même battu et déchiré depuis le début du tournoi. Donc, pour moi, je pense pas qu'il soit.
Non, mais il est pas cramé, mais il peut y avoir une sorte d'usure et de ras-le-bol.
Alors là, moi, j'y crois pas.
Mais il y a peut-être une petite usure. Il y a peut-être une petite usure, effectivement, où il aborde avec un peu moins de fraîcheur les premiers tours d'un tournoi du Grand Chelem. Voilà.
Et les enfants, il peut aussi arriver à être un peu moins bien en forme que les
adultes.
Tout le monde, il est pas, c'est un être humain, il a deux bras, deux jambes, il peut être un petit peu moins en forme. Mais en attendant, pour quelqu'un qui est pas au tip top, il se retrouve quand même en demi. Fait ce qu'il peut, mais peu, mais il fait bien le boulot.
Et puis il a haussé son
niveau. C'est spécial, Julien Varlet.
Tu sais, il avait dit après son dernier match, il avait dit contre Söderling, soit je vais passer un cap et je vais me retrouver, soit je vais rentrer à la maison. Et là, il est là, le champion. Il était face à la montagne. Et son niveau de jeu, il l'a explosé.
Mais donc, je vais vous dire de quand ça date.
C'est dans la tête.
Dans la tête. Alors, c'est pas encore ça, c'est certain, mais
le
mieux date de l'après-match de Ljubicic, où il gagne en 3-7. Notamment, il fait un bon deuxième set et il gagne en 3. Bon, et derrière, en conférence de presse, autant deux jours avant, il était paru abattu. Il était triste. Autant là, c'était pas encore du grand Rafael Nadal, mais aux questions, oui, mais vous jouez mal, vous dites que vous pouvez pas gagner le tournoi, Djokovic arrive, il joue bien, etc., ça va pas. Et là, il a commencé à dire, mais attendez, le but, c'est de quand même chercher des solutions, et si je cherche pas des solutions, c'est pas la peine que je vienne. Et on sentait un peu ce côté un peu hargneux, vous voyez, ouais,
ok,
je joue mal, mais vous comptez pas sur moi pour lâcher.
Pas pour me lancer des fleurs, mais depuis le début du tournoi, je vous ai dit. Depuis son match pourri, mais qu'il a gagné contre Isner, vous allez voir, il va être très très dur à battre.
Il y a eu Isner et il y a le match d'après, là où il est mené 5-1 dans
contre Andouillard, c'est le pire. D'ailleurs, c'est mon plus mauvais match.
Pire que j'ai jamais vu.
Mais alors, j'ai vu une petite séquence juste sur une des chaînes qui diffuse le tournoi de Roland-Garros, une séquence dans les vestiaires juste après son match contre Söderling, et qui était assez intéressante parce qu'il se tourne vers Tony et il lui dit la question, c'est de savoir si je pouvais gagner en jouant comme ça depuis le début du tournoi. Voilà. Et Tony lui dit « Non, tu ne pouvais pas ». Donc en fait, on sent qu'il y a vraiment eu, entre Tony Nadal et Rafael Nadal, une vraie discussion, une façon d'aborder différemment la rencontre, de chercher des solutions. Et voilà, c'est ça quand même qui fait le propre des grands champions.
Ça prouve l'intelligence, bien sûr.
Ça prouve l'intelligence collective de ce groupe, de ce clan, l'intelligence individuelle de Rafael Nadal. Et puis, il y a plein de petits détails. Tu parlais hier de la tension de sa raquette, sa façon d'aborder la rencontre. Tout ça, voilà, sont des petits détails qui lui permettent de reprendre de la confiance.
Julien, pour nos auditeurs qui jouent au tennis, il faut expliquer cette histoire de tension de raquette. Alors, on a beaucoup parlé des balles, des conditions, etc. Raphaël Nadal est arrivé ici avec une tension à 25,5. Il est passé en 24,5. Le problème, c'est qu'il a tardé pour passer en 24,5 parce que comme il ne sentait pas bien la balle, le problème, c'est que quand vous diminuez la tension, vous gagnez en élasticité et donc en vitesse et en puissance et en longueur, mais vous perdez en contrôle. Et contre Ljubicic, il a retrouvé un peu de contrôle. Mais... du coup, il a dit, maintenant, je vais...
Est-ce qu'il n'y a pas de la méthode Coué là-dessus aussi?
Non, après...
Attends, c'est important,
après,
Carole.
Quand tu baisses la tension, tu perds en contrôle, d'accord, mais quand tu descends à 21-20... Mais pas 20, entre 25 et 24.
Ah, mais pour eux. Pas...
Oui, mais je pense que dans son entourage aussi, on essaie de le rassurer, de lui trouver des choses peut-être extérieures qui le remettent dedans. Et moi, j'adore encore une fois, quand on voit comment il fonctionne autour de lui, parce que c'est un immense champion, il y a une pression de dingue, ils ont réussi à le reconfigurer en l'espace de deux matchs quasiment, pour lui redonner une confiance qu'il avait perdue. Donc c'est là qu'on voit que sa force, peut-être cette quinzaine-là, ça va être de jouer quoi ? Peut-être 2-3 matchs à fond, alors qu'il a souffert pendant 15 jours.
Alors hier puisqu'on parlait de la tension et de la longueur de balle. Hier, on a retrouvé un coup droit qui giclait quand même beaucoup mieux et qui était plus long. Un revers aussi. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé, et je voudrais savoir si vous, c'est pareil, ce qui m'a le plus frappé hier, c'est sa façon de défendre. J'ai revu Raphaël Nadal défendre.
Et parce qu'au niveau du jeu de jambes, il était beaucoup plus aérien, peut-être parce que moins tendu, et du coup, moi, je trouvais beaucoup moins lourd, alors que depuis le début, il bougeait pas bien, et là, il a virevolté.
Parce que Sonar, il s'envoie quand même du lourd, et hier, je l'ai vu défendre sur des séquences de 6-7 frappes prises sur son revers, alors que dans les matchs précédents, en 3 coups, il y était plus.
Il partait à la faute, mais là, c'est bizarre, on dirait qu'il a joué sa vie sur ce match-là.
Non, mais il monte tout doucement, il monte tout doucement, maintenant, on est quand même en demi-finale, mais voilà, il monte en puissance, et... Moi, c'est pour ça que c'est un grand champion, c'est qu'il joue pas bien depuis le début du tournoi, mais il s'accroche, il fait le boulot, il ferme, entre guillemets, sans être vulgaire, il ferme sa gueule, et voilà, et tout doucement, à un moment ou un autre, ça revient, parce qu'il a perdu son tennis du jour au lendemain.
Exactement.
Donc ça revient tout doucement, il fait l'effort, et voilà, et puis au
mais
fil des matchs...
Mais le
sexe
dans la tête, hein.
Oui, et puis il sait pertinemment, comme quand il peut jouer un Söderling qui joue comme un bûcheron pendant 2 sets, c'est pertinemment qu'à un moment ou un autre, ça va descendre un petit peu, il va faire quelques fautes, et il peut revenir dans la partie, et c'est exactement ça. Sur ce tournoi, en plus c'est un tournoi sur 15 jours, donc ça lui laisse encore un peu plus de temps pour remettre un peu son jeu en place, mais voilà, il monte tout doucement en puissance et moi je le vois en finale.
Il a eu un seul petit moment de moins bien, c'est quand il mène 6-4, 6-1, 2-0, qu'il réussit donc le break d'entrée de 3ème. Il se fait débreaker et là après on est parti jusqu'au tie-break. Il dit voilà, là j'étais un peu moins bien, mais il rappelle aussi que
quand il
se fait breaker, il y a aussi l'histoire du service gagnant sur la ligne là, que l'arbitre remet 2 balles. Bon, ça lui a pas plu à Raphaël Nadal, c'est un peu étonnant d'ailleurs.
Non, mais
et puis il dit,
comme ça,
et ça c'est intéressant, il dit finalement, est-ce que le fait d'avoir joué un tie-break tendu dans un 3ème set en quart de finale contre le numéro 5 mondial, est-ce que c'est pas bien? Parce que j'ai aussi joué un tie-break important et pour la suite ça peut servir.
Et c'était il en avait perdu 2 contre Isner, donc il devait commencer à faire une fixette. Mais surtout de la part de Söderling, honnêtement, il aurait commencé son match comme il l'a fini, ça aurait peut-être été différent. Mais là, je pense que Nadal, il s'est rassuré parce que mentalement, il n'a pas lâché sur la fin. Il n'a pas lâché, je ne sais pas combien d'occasions comme lors des derniers matchs. Donc, il a tout bien fait pour se remettre dans la droite ligne. Hein. Mais moi, j'attends parce que ça peut être un grand match. J'espère un grand match.
Il y avait eu un grand match notamment.
Je pense que Rafa passera, mais j'espère un grand match.
Les deux derniers sont pas mal. Hein. Il y a eu le Masters, la demi-finale du Masters, qui était absolument magique au niveau de l'intensité.
Incroyable.
Et puis, il y a eu Monte Carlo qui était plutôt pas mal aussi, avec un super Andy Murray notamment au 2ème set. Pour finir cette émission, j'aurais quand même vous dire, même si j'adore les filles, mais là franchement, sur l'ensemble de la quinzaine, Julien.
Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez les.
Non, mais je te taquine, Carole.
Non, mais voilà, le problème, c'est.
D'autant, je suis pas sûr d'être d'accord en plus. Parce que franchement, Eric, juste dans le tableau masculin, est-ce qu'on a vu des trucs fous?
Non, mais
voilà, on a des demi qui sont excitantes, mais sinon,
je suis déçu du niveau de jeu de la quinzaine parce que j'ai pas vu de match qui m'ont transcendé.
On a pas vu de grand match.
Il y a eu le Isner à Nadal, et puis c'est tout.
Ouais, on n'a pas vu de...
Après, il y a le Fognini qui est marrant.
Le Fognini Djoko qui était
pas
mal.
Il y a le Gaël Ferrer quand même, le Monfils Ferrer.
Ouais. Et puis le match qui aurait pu être énorme, qui n'a pas été à cause de la nuit, c'est le Djokovic Del Potro.
Il allait super bien
commencer. Ça commençait à vraiment bien monter. Mais une fois de plus, je pense que ça va relancer parce qu'il y a quand même 3 jours de suite où on n'a pas fini le match. Peut-être l'histoire de l'éclairage une fois de plus.
Quand tu auras un toit, on jouera jusqu'à 1h du matin.
Ah non, c'est petite info.
C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont mettre des night sessions, ça va être l'enfer.
C'est insupportable, ça va tuer le tennis, c'est horrible. Je déteste ça.
Mais qu'ils fassent comme à Wim, qu'ils disent on arrête par contre à partir de telle heure, même s'il y a de l'éclairage ou quoi.
Et petite info, Francesca Schiavone, la future adversaire. l'adversaire de Marion Bartoli est en train de taper la balle sur le Philippe Châtrier. Et bah, c'est pas brillant, je trouve.
Allez, Clément, va faire ton brushing.
Non, mais ça sort énormément.
Voilà. C'est la fin de l'émission, c'est l'heure des pronos. Les deux vainqueurs hommes-femmes, Carole Bouchard.
Le vainqueur
du tournoi,
Joko Bartoli.
Pardon ?
Joko Bartoli,
Clément Graes.
Non, je vois Sharap quand même.
Joko Nali.
Julien Varley ?
Rafa Nali.
Moi, je suis comme Julien Varley. Rafa Nali. Allez, on se retrouve jeudi prochain.
On se retrouve ce soir, la soirée de la presse.
Ah bah voilà.
Il est taqué sur les soirées, Julien Varley. Il va finir la quinzaine, il va hiberner pendant une semaine.
Ah bah je pense que lundi matin, c'est même pas la peine de m'appeler. Hein.
Allez, merci à tous. On se retrouve jeudi prochain pour Carrément Tennis. Rendez-vous tout à l'heure pour les demi-finales femmes en direct en intégralité sur RTL Mécanique.